Vraiment, ça me fait très plaisir de participer à cette journée très émouvante et que je trouve jusqu'à maintenant très très bien organisée. Je félicite tous les gens qui ont félicité, enfin Alberto en particulier, mais parce que je trouve qu'il y a une espèce de logique douce qui se déploie et qui est extrêmement touchante. Victor, je l'avais rencontré en ce qui me concerne à Montevideo, parce qu'il faisait partie de l'entourage de Luis et Vida Prego. Luis, tous les deux sont décédés maintenant, mais Luis Prego, psychiatre, psychanalyste, avait travaillé à son époque avec Léo Kader, donc déjà dans la perspective de l'autisme, et avec son épouse Vida, qui était une femme absolument merveilleuse, de finesse, de culture, de subtilité. Tous deux s'étaient pris d'intérêt pour mon travail, ce dont j'étais particulièrement fier, étant donné donc leur délicatesse extrême. C'est grâce à eux que j'avais fait la connaissance de Victor, qui était donc à la fois leur élève et leur ami. Et de temps en temps, Victor venait à Paris, bien entendu, et on avait une façon de travailler ensemble. On se rencontrait le matin à 8h30, 9h, et il me suivait dans toute ma journée. Et comme ça, on pouvait échanger et travailler au fil de ce que j'avais à faire. Voilà, c'était vraiment des moments formidables. Voilà, alors au fil des années, Victor et moi, on a eu le projet d'un ouvrage sur le bébé, la sensorialité et la créativité. C'est pour ça que je vais peut-être plus parler de sensorialité. Trois thèmes qui nous animaient conjointement. Et ce texte, qu'on a écrit à deux voix, va être publié en juin dans la collection du Fil Rouge aux Presses universitaires de France. Il est beaucoup plus centré sur la sensorialité que sur le rythme. Et évidemment, pour moi, c'est un grand plaisir de voir ce livre aboutir. Malheureusement, Victor est mort avant, mais c'est un projet auquel il tenait beaucoup, et je remercie ici Laura Klang parce qu'elle a participé et continue à participer à la mise au point du texte définitif qui va être remis aux Presses universitaires de France. Voilà, enfin en tout cas pour l'instant, c'est pas ce livre-là dont il est question, mais c'est celui-ci. La thèse de doctorat donc de psychologie clinique, Alberto l'a dit tout à l'heure, qui devait être soutenue à Paris 5, qui n'a pas pu l'être, évidemment, mais qui est maintenant publiée aux éditions RS. Et c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Mon regret, c'est que, bien sûr, il ne lira pas la préface que j'ai rédigée pour ce texte. C'est comme ça. En tout cas, j'ai rédigé cette préface en pensant beaucoup à tout ce que nous avons partagé et qui a beaucoup compté pour moi. Alors, Alberto en a parlé tout à l'heure, le titre qui a été retenu, le rythme et les indicateurs d'intersubjectivité chez le bébé, met en avant ces deux fondamentaux, le rythme et l'intersubjectivité. Moi, je vais plus parler de la sensorialité. Mais quand même, j'avais envie de dire que dans la mesure où il n'y a pas de musique sans rythme et pas de langage sans accès à l'intersubjectivité, ce travail me touche tout particulièrement, puisque la musique et le langage sont deux domaines que j'aime infiniment et qui imprégnaient profondément mes discussions avec Victor. C'est sans doute d'ailleurs, quand j'y réfléchis, par là que je me suis intéressé au bébé, puisque les débuts du langage sont du côté de la musique. Musique, langage, bébé, pour moi, il y a une certaine cohérence quelque part. Et d'ailleurs, à propos du rythme, c'est sûr que je me contenterai de ça pour l'instant, je voulais dire aujourd'hui qu'avec Victor, on était vraiment tous les deux extrêmement admirateurs de l'œuvre de Daniel Stern. J'en ai parlé un peu dans cette préface. Daniel Stern, qui était peut-être plus intéressé par la chorégraphie que par la musique à proprement parler, mais enfin bon, les deux choses sont bien sûr étroitement liées. Vous savez peut-être que, enfin je le dis pour les plus jeunes, que Daniel Stern, à la fin de sa vie, a été conseiller scientifique pour un grand ballet de danse new-yorkais. Et il les aidait à percevoir dans le langage du corps, le langage de la gestique des danseurs, toute une réflexion sur les interactions précoces mère-bébé, adulte bébé était perçu, pensé par Daniel Stern, vraiment comme une espèce de chorégraphie, une improvisation permanente. Une improvisation, et la définition de l'improvisation, selon Martial Solal, par exemple, c'est le sentiment qu'on est tout le temps en train de se tromper, mais qu'on est tout le temps en train de rattraper les choses pour ne pas se tromper, et ça donne justement une ouverture sur la créativité. J'y pensais tout à l'heure en regardant les images. Hein. En permanence, le petit faux pas qu'on rattrape et qui permet au contraire une interaction riche et féconde. Voilà, mais enfin aujourd'hui, je vais surtout parler de l'intersubjectivité et de la sensorialité. Et tout ce que je dis, enfin je crois que c'est Sylvain à la même position que moi ou moi que lui, tout ce que je vais dire, c'est des choses que j'ai échangées avec Victor et des choses que j'aurais aimé échanger encore s'il avait été là. Un certain nombre de choses que je veux dire, d'ailleurs, sont dans notre livre. Le livre du Fil Rouge est conçu de la même manière que celui que j'ai coécrit avec René Roussillon sur la naissance de l'objet, c'est-à-dire que chacun a donné 4 chapitres et chacun a fait une réponse aux 4 chapitres de l'autre. Voilà, c'est une forme d'intersubjectivité éditoriale. Oui, je pensais aussi à propos de ce qui a été dit tout à l'heure sur la poésie, puisqu'on a entendu Victor sur l'item P, enfin dans l'abécédaire de Marlus Leitgelgil dans Psinem, il s'est chargé de la lettre P, donc poésie, vous avez entendu. Hein. Et c'est ce qu'il disait à un certain moment, puisqu'il a été dit aussi de Manuel de Balanche, me faisait penser à cette phrase de Yann pour articuler langage, musique et sensation, à cette très jolie phrase de Yann Moix, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas par ailleurs, mais enfin bon, de temps en temps il a quand même des trouvailles. Il disait la poésie cherche à renouer avec ce moment où pour la première fois un mot s'est posé sur une sensation. C'est joli ça quand même. Hein. La poésie cherche à renouer avec ce moment où pour la première fois un mot s'est posé sur une sensation. Et quand on a ça en tête, je trouve qu'on peut regarder certaines interactions adulte-bébé un peu dans cette perspective-là. Voilà. Donc la sensorialité à la base du langage. Mais ce que je vais essayer de dire maintenant, c'est que la sensorialité est à la base de l'intersubjectivité, mais qu'évidemment, il n'y a pas d'accès au langage sans accès d'abord à l'intersubjectivité. Bon, quelques mots rapides pour pas être trop. J'hésite entre universitaire ou pédagogique là, pour pas être trop lourd quoi. Quand même rappeler que l'intersubjectivité, c'est vraiment. Victor partageait tout à fait ce point de vue. L'intersubjectivité, c'est vraiment la découverte qu'à l'extérieur de soi, il y a un autre que soi, tout simplement. Pas tout simplement, hein, facile à dire, mais c'est un processus évidemment subtil et extrêmement délicat. L'autisme est effrayant, mais le développement normal a quelque chose de miraculeux. Hein. Pourquoi est-ce que 99% des enfants arrivent à découvrir avec nous une co-construction, une co-transformation, Victor le disait bien tout à l'heure, comment est-ce que les enfants, 99% des enfants arrivent à découvrir que quelque chose d'autre qu'eux existe au dehors, avec la subjectivation ça se complique encore, parce que cet objet qui est découvert est lui-même un autre sujet, et chacun est sujet, et chacun est objet de l'autre, ce que René Roussillon a appelé découvrir un objet autre sujet. C'est pas simplement découvrir un objet à l'extérieur de soi, mais c'est découvrir un objet qui est lui-même un sujet et dont je suis l'objet. Enfin, c'est éminemment subtil et complexe. Et l'enfant, le bébé humain, est tellement immature, tellement inachevé, tellement néotène, qu'évidemment, il a besoin de nous pour avancer dans cette voie-là, même s'il a sa part active dans le développement. Donc l'intersubjectivité, comme découverte de l'autre, comme en dehors de soi, c'est-à-dire pouvoir vivre l'autre en extériorité, et je n'entre pas dans le détail, mais vous savez qu'au fil des années, qui sont des 20, 30, 40 ans qui viennent de s'écouler. Il y a eu différents modèles de tout ça. L'intersubjectivité secondaire, secondairement acquise, après un premier moment d'indifférenciation totale. L'intersubjectivité primaire, au contraire, où on s'est mis à penser que le bébé pouvait très vite, si ce n'est tout de suite, en tout cas très vite, ressentir qu'un autre que lui existe au dehors. Et donc, pour ces modèles d'intersubjectivité primaire, les deux grands noms, ce sont justement Daniel Stern et Colwyn Trevarten. Et puis, de nombreuses équipes, dont la nôtre, Anneker, on a ensuite développé des modèles plus intermédiaires, où en fait, le bébé ne partirait peut-être pas d'une indifférenciation totale, mais de petits moments d'intersubjectivité primaire donnés d'emblée, mais qui ne tiennent pas longtemps dans la journée, et à partir desquels, il doit progressivement construire une intersubjectivité secondairement acquise, progressivement acquise et plus stabilisée. Voilà, mais en fait, si je rappelais tout ça, c'est pas simplement pour donner des définitions, c'est pour essayer de bien se faire sentir que cet accès progressif à l'intersubjectivité, qui n'est pas encore la subjectivation, hein, l'intersubjectivité se joue dans l'interpersonnel, la subjectivation se joue dans l'intrapsychique davantage, mais que tout ce trajet vers l'intersubjectivité est fondamentalement ancré dans la sensorialité. Et qu'en réalité, pour pouvoir ressentir qu'un objet, animé ou inanimé, mais enfin, parlons d'objet animé, pour ressentir qu'un autre existe en dehors de soi, il faut absolument pouvoir le percevoir par plusieurs canaux sensoriels simultanément. Ça, c'est vraiment le cœur du livre qui va paraître, que j'ai co-écrit avec Victor. Tout le monde aujourd'hui tourne autour de ce qu'on appelle la synchronie polysensorielle, la synchronisation des flux sensoriels. Pouvoir ressentir l'autre comme autre que soi, c'est-à-dire en dehors de soi, c'est la condition sine qua non de cela, c'est de le percevoir par plusieurs canaux sensoriels simultanément. Alors ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 6, ça peut être 7. Je m'arrête là, mais il y a 7. Hein, on dit toujours qu'on a 5 sens, mais il y a 7 sens. Plus le sens commun de Bion. Mais enfin, en tout cas, il y a 7 sens. Il y a le toucher, il y a l'olfaction, il y a le goût. Ça, ce sont ce qu'on appelle les sensorialités proximales. Il faut être tout près de l'objet pour pouvoir le toucher, pour pouvoir le sentir ou pour pouvoir le goûter. Donc, pour ces trois sensorialités proximales, il n'y a pas besoin de distanciation avec l'objet. Et c'est pourquoi, sans doute, les enfants autistes, les objets autistiques sont choisis dans ces sensorialités proximales qui, en quelque sorte, évitent la question de la distance de l'objet. Et puis ensuite, il y a l'audition, il y a la vision, qui sont des sensorialités distales, parce que ce sont des sensorialités qui sont précisément faites pour voir de loin ou entendre de loin, donc qui sous-entendent, qui impliquent la distanciation de l'objet. Les enfants autistes ont beaucoup de mal avec ça, évidemment. Là, on en est à 5. Toucher, olfaction, goût, audition, vision, à quoi il faut rajouter la proprioception, la perception des sensations profondes du corps et le sens de l'équilibre qui passe par le labyrinthe, qui sont évidemment un petit peu moins connus et en tout cas dans leur développement prénataux, mais qui existent quand même. Il y a 7 sens, 7 canaux sensoriels. Bon. Alors aujourd'hui, tout le monde tourne autour de cette question de la synchronisation des sensations pour que le bébé puisse accéder à ce vécu, ce ressenti, cet éprouvé, je ne dis pas l'idée, parce que c'est plus affectif que cognitif, que quelque chose d'autre que lui existe au dehors. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, on en a tellement parlé avec Victor, c'est qu'on est là dans une zone où se rejoignent des approches différentes. Avec Donald Melzer et la psychanalyse des enfants autistes, vous savez bien qu'on parle de mantèlement ou de démantèlement. Le mantèlement des sensations, prendre au moment de la... quand on repense aux images qu'on vient de voir, au moment de la tétée, le bébé prend ensemble la voix de la mère, le goût du lait, l'odeur du lait, le rythme du portage, le regard de la mère, ses expressions faciales, sa voix si elle chantonne. Enfin, je veux dire, c'est un moment de rassemblement des sensations, mantèlement, démantèlement, mentellement, démantèlement, c'est le travail de toute la journée. Et de leur côté, les cognitivistes, et notamment Arlette Stréry, qui devait d'ailleurs intervenir dans le colloque de la CIPA, mais qui a été empêchée hier, mais dont on connaît bien les travaux à Paris 5. Arlette Stréry, elle ne prend pas le mot de mentellement ou de démantèlement, mais elle a pris le mot de commodalisation ou décommodalisation. Les cognitivistes travaillent plus avec les objets inanimés, les psychanalystes plus avec les objets animés, mais je crois que là, on est vraiment dans une zone de convergence conceptuelle. Il y a quelques grands livres d'Arlette Stréry qu'il faut vraiment regarder de ce point de vue-là. En 91, elle avait écrit « Voir, atteindre, toucher ».« Toucher pour connaître » en 2000, et plus récemment avec Sylvie Chocron, « Comment voient les bébés ?» où elle montre bien comment le canal visuel est indissociable d'autres canaux sensoriels. Voilà, donc, qu'on parle de mentellement, démantèlement, ou de commodalisation, décommodalisation, en fait, si on veut prendre un mot simple de la langue, on va dire rassemblement des sensations, ou au contraire, non pas clivage peut-être, mais dissociation des sensations. Et l'idée forte, l'idée centrale, c'est que c'est seulement dans le rassemblement des sensations, mentellement ou commodalisation, qu'on peut avoir le vécu, que l'objet d'où viennent toutes ces sensations est extérieur à soi. Et du point de vue des enfants autistes, ça donne un accès, enfin ça donne une compréhension de certaines situations très émouvantes, où quand certains enfants commencent à émerger un peu de la bulle autistique, qui découvrent les objets de l'environnement, comme le tout petit enfant a à le faire sans doute au début de sa vie, eh bien ces objets, tout ce qu'ils découvrent dans l'environnement, je ne dis pas l'inquiète ou l'angoisse, parce que ce serait déjà une prise de position, mais en tout cas le questionne, l'interroge, le trouble peut-être, et au moment où il est en train de sortir de la bulle autistique, on le voit justement se rabattre sur des stéréotypies monosensorielles, de tapotage pour faire prévaloir le tact, de flairage pour faire prévaloir l'odeur, des petits mouvements de production de bruit pour faire prévaloir l'auditif, de léchage pour faire prévaloir le goût. Comme si au moment même où il découvrait l'existence de l'objet à l'extérieur de lui, quelque chose le trouble et il se rabat sur du monosensoriel. Et dans le monosensoriel, on perd l'extériorité de l'objet. Et c'est tout l'art de l'intervenant, psychothérapeute, psychanalyste ou psychomotricien ou autre, dans ces moments-là, pour ne pas que les choses se dévitalisent, de savoir, et sans doute le travail de l'adulte en général, d'aider l'enfant à garder du polysensoriel au moment où il aurait tendance à vouloir justement redissocier, recliver les différents flux. C'est assez pathétique parce qu'au moment où il découvre l'objet, immédiatement, il va essayer de se rabattre sur une perception monosensorielle qui lui fait perdre le sentiment d'extériorité de l'objet. Et il y a là vraiment un enjeu développemental tout à fait important. Alors, ces histoires de rassemblement des sensations, pour être fidèle à l'histoire des choses, il faut quand même rappeler un nom dont on a beaucoup oublié. Dans les années 70-80, à Tours, il y avait quelqu'un qui n'était pas du tout psychanalyste, qui était assez isolé, un peu dans son coin, Gilbert Lelore. Je pense que les plus jeunes n'ont jamais entendu parler de lui. Et Gilbert Lelore, tout le monde se moquait de lui un peu à l'époque, alors que probablement il était assez pionnier et d'avant-garde. Il a passé toute sa vie à étudier, au niveau des potentiels évoqués corticaux, la difficulté des enfants autistes à coupler les stimuli visuels et les stimuli auditifs. Et tout le monde se demandait, mais pourquoi il fait ça? Et il ne connaissait absolument pas l'œuvre de Melzer, mais il était quand même dans cette idée que probablement les enfants autistes avaient du mal à rassembler les différents flux sensoriels, et lui s'intéressait à ces deux sensorialités distales, l'auditif et le visuel. C'était tout à fait, quelque part, avant-gardiste, ça a été assez mal compris à l'époque. J'ai envie d'ajouter un dernier point peut-être à propos de cette condition de la synchronie polysensorielle pour accéder à l'intersubjectivité. Envie de rajouter juste une chose, c'est de dire que pour rassembler les différents flux sensoriels, un flux c'est dans la diachronie, hein, pour rassembler des différents flux sensoriels, encore faut-il que ces différents flux sensoriels soient mis en rythme compatible. Et là, c'est une merveille des merveilles, parce que ça peut se faire au niveau très profond, central de l'enfant. Ça rejoint tout à fait ce que Freud disait en 1911 dans son article sur les formulations sur les deux grands principes du cours des événements psychiques, où déjà il avait eu cette intuition de dire que les sensations, les perceptions ne sont pas du tout un acte passif. C'est au contraire un processus actif. Il faut aller au-devant de l'impression des sens, disait Freud, c'est-à-dire il faut aller chercher les informations à l'extérieur, mais ça se fait, disait-il, de manière périodique. Périodique, hein. Déjà le rythme apparaît là. Périodique, l'attention, c'est pas la sensation, c'est pas se laisser inonder par ce qui vient de l'extérieur, c'est au contraire aller au-devant de l'environnement, aller chercher dans l'environnement de manière périodique, rythmique, des informations dans les différents canaux sensoriels, parce que le psychisme humain ne peut travailler que sur de petites quantités d'énergie. Et chaque stimulus ne va pas directement au cerveau. Il est reconstruit à la périphérie au niveau des différents sphincters sensoriels. Donc la sensation est un processus éminemment actif. C'est déjà un travail psychique, en quelque sorte. Hein. Voilà, donc la mise en forme des différents flux sensoriels peut se faire au niveau central. Elle peut se faire au niveau plus périphérique. Et je repense à nouveau aux enfants autistes ou certains enfants très carencés qui, par exemple, se cognent les yeux de manière rythmique, comme s'ils voulaient justement interrompre de manière rythmique le flux visuel, ce qu'on fait d'ailleurs en clignant des yeux, hein, chacun d'entre nous sans s'en apercevoir. Donc un niveau central, un niveau périphérique, et évidemment un niveau interactif. On l'a très bien vu sur certaines images qu'on vient de regarder ensemble, comment la mère, dans la façon dont elle interagit avec le bébé, va le guider, entre guillemets, dans son investissement visuel ou autre de l'environnement. Voilà, donc cette mise en forme, cette mise en rythme des différents flux, hein, on prend très vite un geste de chef d'orchestre pour faire ça, hein, inévitablement. Voilà, cette mise en rythme des flux sensoriels qui viennent de l'objet que l'enfant perçoit, c'est là aussi une co-construction entre le bébé et l'adulte. Le bébé a sa part active, segmentation profonde, segmentation périphérique, mais c'est aussi une segmentation, une modulation qui se fait dans l'interaction. Voilà, alors, ça c'est quand tout se passe bien. Mais évidemment, il y a des difficultés dans certains cas. Et Geneviève Hague parle de dissociation des flux sensoriels, on peut dire clivage des flux sensoriels. Dans certains cas, certes, les enfants n'arrivent pas à rassembler ces différents flux. Et Didier Houzel a résumé un peu les choses en disant « Mais au fond, les enfants autistes souffrent de clivages sensoriels très profonds, très primitifs, qui vont ensuite les gêner et qui vont sous-tendre leur clivage relationnel. » C'est-à-dire une autre façon de dire que c'est la polysensorialité qui amène à l'intersubjectivité, mais s'il y a clivage des différents flux sensoriels, alors il y a difficulté d'accès à l'intersubjectivité. Et il faudrait là brancher tout un raisonnement sur les destins de l'archaïque. Tout à l'heure, Alberto a rappelé ce terme de Victor, le complexe de l'archaïque, les destins de l'archaïque, tout ce qui se passe là dans ces premiers temps de la sensation, perception, mise en forme, c'est à la fois un matériau socle pour le développement futur, et c'est aussi quelque chose qui pourra se réactiver à différents moments de la vie psychique ultérieure. Voilà, alors j'en viens maintenant à la question de la dissensorialité. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand les choses se passent mal ? Et qu'est-ce qu'on appelle dissensorialité ? Il y a sans doute différentes formes, on a un immense travail devant nous qui s'ouvre. Hein. Vous allez voir, je passe par là pour arriver à la créativité. On a un immense travail qui se passe devant nous, parce que quand on dit dissensorialité chez le tout petit, il y a sans doute différentes formes de dissensorialité. Il y a des enfants pour lesquels tel ou tel canal sensoriel est empêché. Ce sont les déficits sensoriels, nécessités, les surdités. Bon. Mais ce n'est pas tellement à ces cas-là que je pense, plutôt à des cas où il y a une hétérogénéité des sensibilités sensorielles. Et ça, on est vraiment seulement à l'aube du début des recherches sur ce point. Il y a des enfants qui, pour des raisons qu'on ignore, investissent davantage le visuel, investissent davantage l'auditif, moins ceci, moins cela, qui peuvent avoir même des hypersensibilités dans certains flux sensoriels. Et l'autisme est d'ailleurs beaucoup plus une question d'hypersensibilité sensorielle que de déficit. Là, je pense aux travaux de Laurent Motron, qui a bien montré que les enfants autistes ont une hypersensibilité douloureuse dans les deux canaux sensoriels distaux, l'audition et la vision, j'en ai parlé tout à l'heure, et qui ont beaucoup de mal à les coupler, à les rassembler, à les comodaliser, comme vous voulez, à les manteler, non pas parce qu'il y a un défaut de sensibilité sensorielle, mais au contraire une hypersensibilité sensorielle assez douloureuse. Et aujourd'hui, on peut arriver à l'idée que ces différents types de dissensorialité ont sans doute différents destins. Et c'est là-dessus que je terminerai mon intervention, enfin, la dernière partie de mon intervention, c'est pour dire que la dissensorialité est comme une sorte de plaque tournante aujourd'hui. Alors, bien sûr, je l'ai déjà évoqué, je ne vais pas y insister, ce n'est pas le sujet tout à fait, mais il y a le destin autistique. Certains enfants, beaucoup d'enfants autistes, je viens de le dire, ont une hypersensibilité auditive, visuelle, douloureuse et tactile aussi, à vrai dire. Mais enfin, probablement, ça les gêne énormément pour coupler leurs sensations et accéder à l'intersubjectivité. Bon, je vais laisser ça de côté parce que c'est le cas extrême, en quelque sorte. Il y a un grand nombre d'enfants qui commencent à être étudiés maintenant, qui ont des dissensorialités assez importantes, mais sans devenir autistes. Ça, c'est une question très intéressante et actuelle. On a commencé à y travailler à Necker avec Michel Guinaud, dans un article qui est paru l'année dernière, enfin en 2018, dans le journal de la psychanalyse de l'enfant. Michel Guinaud, qui est psychomotricienne, avait choisi le titre « Enfant singulier, particularité sensorielle ». Des enfants qui ne sont pas autistes, mais qui ont quand même un certain nombre de difficultés sensorielles. Il y a je ne sais pas s'il y a des psychomotriciennes dans la salle, mais en tout cas, les psychomotriciennes connaissent bien un outil qui s'appelle le profil sensoriel de Dune, D-U-2-N, qui permet d'évaluer un petit peu la sensorialité des enfants. Et certains de ces enfants-là ont vraiment des difficultés, notamment dans le canal tactile, sans devenir autistes, ce qui ouvre un champ très intéressant. Qu'est-ce qui leur a permis de ne pas devenir autiste malgré une dissensorialité quand même parfois assez proche de celle qu'on observe aussi chez les enfants autistes? Et là, bon, ben là, c'est extrêmement intéressant. Alors, j'en ai parlé des heures avec Victor. Qu'est-ce qui les a empêchés? Est-ce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes dissensorialités? Est-ce que quelque chose dans le positionnement des adultes qui s'occupent des bébés leur a permis d'éviter le destin autistique, soit par une sexualisation particulière de leur sensorialité, soit au niveau de l'anticipation ou de la supposition du sujet. Aucun enfant, aucun bébé ne peut devenir un sujet s'il n'y a pas d'abord quelqu'un qui le pense comme tel au dehors, et peut-être que ces enfants-là ont quand même bénéficié d'une anticipation ou d'une supposition du sujet plus active que d'autres. C'est plus un domaine de questionnement que de réponse. Donc il y a le destin autistique. Il y a le destin de ces enfants singuliers qui ont nettement des difficultés sensorielles sans devenir autistes. Et puis, et c'est là-dessus que je voulais vraiment terminer, pour être moins pessimiste, il y a un destin particulier qui est celui de la créativité, et de la créativité artistique en particulier. Et pour illustrer ça, je voudrais évoquer... Parce que la musique m'importe, je voudrais évoquer Glenn Gould, dont j'ai beaucoup parlé avec Victor. Et bien avant d'évoquer Glenn Gould, c'est vrai que la créativité s'enracine souvent, semble-t-il, dans des matériaux très archaïques de la vie psychique des créateurs. Hein. Les productions artistiques sont parfois en lien très vivant avec des sensations, perceptions très précoces qui sont restées très vivantes, plus vivantes sans doute chez les artistes que chez les non-artistes. Mais peut-être qu'on peut tous devenir artistes en retrouvant ces liens avec nos parties archaïques. Ça fait partie du complexe de l'archaïque de Victor, j'en sais rien. En tout cas, la question des îlots autistiques est très intéressante du point de vue de la créativité. Et Didier Anzieux, dans un travail qu'on ne cite plus, je trouve, assez souvent, le corps de l'œuvre, a dit des choses remarquables là-dessus, hein, en rappelant que tout mouvement créateur s'enracine dans un mouvement de non pas de repli, mais de réentrée en soi-même, parfois dépressif d'ailleurs, hein, comme pour renouer avec des proto-représentations. Ça fait partie du travail de Victor, des proto-représentations qui restent enfouies, mais qui ne sont pas disparues, et qu'il faut aller rechercher avant de pouvoir les mettre en forme. Bon, je crois que ça rejoint certains aspects du travail d'Anne Brun, en tout cas de la pensée d'Anne Brun, à propos de médiation et de la créativité. Voilà, alors je voudrais peut-être dire quelques mots de Glenn Gould, parce que lui, il illustre quand même de manière assez saisissante cette question des dissensorialités, des îlots autistiques chez quelqu'un qui a eu une créativité tout à fait étonnante. Et peut-être que pour se mettre dans l'ambiance, on peut passer quelques notes des variations Goldberg. J'ai choisi une photo de Glenn Gould enfant parce qu'elle est un petit peu moins connue que d'autres. Là, c'est avec son professeur Alberto Guerro, avec qui il a appris le piano. Alberto Guerro. Voilà, donc pourquoi Glenn Gould, à propos de la dissensorialité, de la créativité, bon, juste pour le plaisir de partager quelques éléments ensemble. Vous savez que donc il est né en 1932 à Toronto, au Canada, il est mort en 82, tôt, 50 ans, dans la même ville. Son père était fourreur à Toronto et violoniste. Et sa femme, Florence Grieg, était une lointaine parente d'Edouard Grieg, le compositeur. C'est avec elle qu'il a appris le piano à l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis ensuite, toute cette carrière prestigieuse que vous connaissez, c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, je ne vais pas reprendre ça. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que vous savez sans doute qu'en 64, soudainement, il a décidé de ne plus jamais se produire en public, mais de continuer son œuvre de pianiste uniquement en studio. Et ça, c'est quand même très intéressant. Alors, il y a plusieurs façons d'envisager le problème. On peut dire qu'il y a eu dans cette décision assez drastique, assez radicale, probablement la question d'une lutte, d'un combat entre ce que j'appelle d'un côté l'affect personnel et l'émotion partagée. Et pour toute cette réflexion, je me suis beaucoup appuyé sur un livre de Michel Schneider qui s'appelle Piano Solo, qui est un livre absolument merveilleux, où il parle bien sûr de Glenn Gould de manière très approfondie. Et on sent que Glenn Gould a eu beaucoup de mal. Le public le gênait à partir d'un certain moment. Et on sent que Glenn Gould cherchait une relation extrêmement personnelle et isolée avec la musique, si ce n'est pas avec le piano lui-même, avec le, comme s'il cherchait un rapport direct avec la musique. Avec, vous savez qu'il avait une position très particulière par rapport au piano, beaucoup plus basse que la plupart des interprètes, comme si vraiment ce qui était vraiment crucial pour lui, c'était de pouvoir contrôler, sentir le toucher du piano, le lâcher du piano, doigt par doigt, quelque chose vraiment qui se focalisait dans ce tactile, mais aussi dans un rapport solitaire à la musique. Alors il a eu des explications plus ou moins périphériques en disant mais ce qui est terrible dans un concert, c'est que l'artiste ne peut pas reprendre son œuvre. Un peintre, un sculpteur peut reprendre l'œuvre à zéro, un pianiste en concert non. En studio, oui, mais en concert, non. Il faut tenir compte de ce qui se passe. Voilà. Le public le gênait, les toussotements, il avait le toussotement, les raclements de gorge du public. C'était une souffrance épouvantable pour lui. Hein. Et bon, mais ça, c'est quand même des explications un petit peu rationalisantes, des petites rationalisations. On peut imaginer, en tout cas, c'est l'hypothèse de Michel Schneider, qu'en fait, cette rupture avec le public correspond au refus d'une émotion partagée avec le public et la recherche d'une relation affective, solitaire, personnelle et directe à la musique, via le piano quand même, parce qu'il faut, c'était son métier, mais une espèce de relation directe au son. Voilà, et alors il y a eu toute une série d'études sur la personnalité de Glenn Gould. Certains ont pensé qu'il était Asperger. Bon, peu importe, on va pas se lancer dans le DSM-5 ou le DSM-4 à propos de Glenn Gould, c'est pas le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait une dissensorialité très forte, une hypersensibilité de l'ouïe. Bon, tant mieux pour un pianiste ou un musicien, une hypersensibilité de la vue. Hein, on est dans quelque chose qui rappelle les travaux de Motron, une hypersensibilité du toucher aussi, je vais en parler, et à l'inverse, une très grande insensibilité du goût et de l'odorat. Paraît-il, il mangeait indéfiniment la même chose, tout pendant des années, œufs brouillés, salade, pain grillé, point, et bien ça ne l'intéressait absolument pas. Enfin bon, les œufs brouillés, c'est déjà délicat quand même, mais que le menu invariable. Bon, il avait des routines aussi et des bizarreries vestimentaires. Alors, on a beaucoup parlé de la fourrure parce que son père était fourreur, mais enfin, bon, ça, c'est une explication un peu rapide. Il avait des attitudes vestimentaires, des particularités. Mais ce qui est vraiment important, c'est cette dissensorialité, une hypersensibilité probablement douloureuse de l'ouïe, de la vue et du toucher. Et l'idée que je voulais défendre, c'est que là, on est dans un destin, on pourrait dire, un peu heureux. De la dissensorialité, c'est-à-dire une ouverture sur la créativité, au prix d'un mouvement d'aller rechercher au fond de soi, sans doute, des sensations, perceptions extrêmement primitives, mais au prix du sacrifice du partage avec le public, au prix du sacrifice d'un partage émotionnel et d'un repli sur l'affect. Alors, je ne vais pas faire la théorie, bien sûr, de l'affect et de l'émotion. On emploie souvent les mots l'un pour l'autre. Je pense personnellement que ce sont vraiment deux choses extrêmement différentes. L'affect renvoie vraiment à la métapsychologie individuelle et l'émotion plus à la relation d'objet, mais c'est pour dire vite les choses aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Autisme, enfant singulier, créativité, je crois que les dissensorialités sont un petit peu une plaque tournante de tout ça. Évidemment, ça confère à l'histoire individuelle un rôle central, car le biologique ne résumera jamais le tout du vivant, et c'est aussi cela qui formait la trame profonde de mon dialogue, hélas interrompu, avec Victor. Moi aussi, je remercie Victor de tout ce qu'il nous a apporté, surtout pour tout ce qu'il a apporté à l'ensemble des professionnels de l'enfance, qui ont besoin, me semble-t-il, surtout actuellement, de personnes telles que lui, éminemment respectueuses de cet équilibre si difficile à trouver entre une éthique du sujet et une éthique du savoir. Je vous remercie beaucoup de votre attention.